Chapitre 11. Forgisation. Le grêlé est un personnage célèbre de la tradition et du théâtre des six duchés. Bien piètre est la troupe de marionnettistes qui ne possède pas son grêlé. Non seulement pour son rôle classique, mais aussi pour son utilité en tant qu'annonciateur de désastre dans les productions originales. Parfois, la marionnette du grêlé reste simplement plantée à l'arrière-plan de la scène pour donner une note inquiétante à une pièce. Dans les six duchés, c'est un symbole universel. Le fondement de cette légende remonterait au début du peuplement des duchés, c'est-à-dire non pas à leur conquête par les loin-voyants des îles d'outre-mer, mais aux tout premiers immigrants des origines. Même les Outréliens possèdent une version de la légende de base. Il s'agit d'un récit de mise en garde qui compte le courroux que conçut elle, le dieu de la mer, à se voir abandonné. Quand la mer était jeune, elle, le premier aîné, avait foi dans le peuple des îles. Il lui fit don de sa mère, de tout ce qui y nageait et de toutes les terres qu'elle bordait. Bien des années durant, les gens de ce peuple l'en remercièrent. Ils pêchaient, vivaient au bord de la mer partout où ils le désiraient et attaquaient ceux qui osaient prendre résidence là où elle leur avait donné domination. De la même façon, ceux qui avaient l'audace de sillonner leur mer devenaient leur proie légitime. Le peuple prospéra, devint endurant et fort, car la mère d'elle le passait à son crible. La vie était dure et dangereuse, mais elle faisait des hommes robustes et des femmes sans peur tant au foyer que sur le pont. Ils respectaient elle, lui offraient leurs louanges et ne juraient que par lui. Et elle tirait fierté de son peuple. Mais dans sa générosité, il leur dispensa trop de faveurs. Trop peu d'entre eux mouraient des rigueurs de l'hiver et les tempêtes qu'il leur envoyait n'étaient pas assez violentes pour leur talent de marin. Ainsi, le peuple crut en nombre. Ainsi crurent aussi leurs bêtes et leurs troupeaux. Les années grasses, les enfants chétifs ne périrent plus mais grandirent, demeurèrent à terre et labourèrent le sol afin de nourrir le surcroît de bétail, de volailles et de malingres comme eux. Les gratteurs de poussière ne remerciaient pas elle pour ses vents violents et ses courants propices aux attaques. Non, leurs louanges et leurs serments n'étaient qu'au nom d'Eda, qui est l'aîné de ceux qui labourent, plantent et s'occupent des bêtes. Aussi, Eda favorisa-t-elle ses chétifs d'une profusion de plantes et d'animaux. Cela ne plaisait pas à elle, mais il n'intervint pas, car il avait encore pour lui le peuple hardi des navires et des vagues. Les siens bénissaient en son nom et maudissaient en son nom, et pour les endurcir davantage, il leur envoyait des tempêtes et de noirs hivers. Mais avec le temps, ses fidèles se firent plus rares. Les femmes laides de la terre séduisirent les marins, et leur donnèrent des enfants tout juste bons à gratter le sol. Et le peuple abandonna les rivages hivernaux, les pâtures glacées, et migra vers le sud, vers les pays amollissants où poussent le raisin et le grain. Chaque année, ils étaient moins nombreux à labourer les vagues et à moissonner le poisson qu'elle leur donnait. Elle entendait de plus en plus rarement son nom prononcé pour bénir ou maudire. Le jour vint, où il n'en subsista qu'un pour bénir ou maudire au nom d'elle. Et c'était un vieil homme décharné, trop âgé pour la mer, dolent et enflé des articulations et presque édenté. Ses bénédictions et ses malédictions étaient choses débiles, qui insultaient plus qu'elles ne réjouissaient elle, lequel n'avait guère d'affection pour les vieillards décrépits. Enfin se leva une tempête qui aurait dû achever le vieil homme et son petit bateau. Mais quand les vagues glacées se refermèrent sur lui, il s'agrippa au reste de son embarcation et eut la témérité d'implorer la pitié d'elle, dont chacun sait pourtant que la compassion lui est inconnue. À ce blasphème, elle fut saisie d'une telle fureur qu'il refusa de recevoir le vieillard au sein de l'onde, mais au contraire, le rejeta sur la grève en fulminant une malédiction. Jamais il ne pourrait reprendre la mer, mais jamais non plus il ne mourrait. Et quand, rampant, l'homme sortit des vagues amères, son visage et son corps étaient grêlés comme si les bernacles s'y étaient enracinés. Il se releva en chancelant et s'enfuit vers les régions clémentes. Et où qu'il se rendit, il ne voyait que les pusillanimes gratteurs de poussière. Il les mettait en garde contre leur folie, leur disant qu'elle susciterait un nouveau peuple, plus courageux, auquel ils donneraient leur héritage. Mais les gens ne l'écoutaient pas, devenus trop mous et trop habitués à leur existence paisible. Cependant, partout, la maladie suivait le sillage du vieillard. Et c'étaient les varioles qu'il répandait, affection qui ne se préoccupe pas qu'un homme soit fort ou faible et qui emporte tout ce qu'elle touche, humains et animaux. Et il en était comme il devait en être, car chacun sait que les varioles montent des mauvaises terres et se disséminent par le labourage. Le retour de Vérité à Castelserre fut douloureusement assombri par les événements de Forges. Le prince, toujours pragmatique, avait quitté Gardebaie dès que les ducs Kelvar et Chemchai s'étaient montrés d'accord sur la question de l'île du Guet. De fait, lui et son escorte d'élite s'étaient mis en route avant même qu'Imbre et moi n'eussions regagné l'auberge. Du coup, notre propre retour baigna dans une atmosphère de frustration. Le jour et le soir autour des feux, les gens ne parlaient que de Forges, et même dans notre caravane, les rumeurs ne cessaient de se multiplier, avec toujours plus de détails inventés. Pour moi, le voyage fut encore gâché par le fait qu'Imbre réendossa son rôle criard de vieille dame acariâtre. Je dus me plier à ses caprices jusqu'au moment où ses domestiques de Castelserre firent leur apparition pour l'escorter dans ses appartements. Elle habitait dans l'aile des femmes, et j'eus beau les jours suivants faire des pieds et des mains pour recueillir tous les potins la concernant, je n'appris rien, sinon qu'elle vivait en recluse et avait un caractère difficile. Je n'ai jamais pu découvrir comment Imbre avait fait pour créer ce personnage et entretenir son existence fictive. En notre absence, Castelserre paraissait avoir subi un déluge de nouveaux événements, si bien que j'eus l'impression d'être parti non pas quelques semaines, mais une bonne dizaine d'années. Même Forges ne parvenait pas à éclipser complètement l'acte d'éclat de Dame Grâce. Les ménestrels narraient l'épisode à l'envi les uns des autres afin de voir quelle version l'emporterait. On disait que le duc Kelvar s'était agenouillé et lui avait baisé le bout des doigts après qu'elle eût déclaré, et avec quelle éloquence, vouloir faire des tours les joyaux les plus précieux de son pays. Quelqu'un me raconta même que le seigneur Chemchai avait personnellement remercié la dame et souvent cherché à danser avec elle ce soir-là, menant les deux duchés au bord d'un nouveau conflit aux racines bien différentes du premier. J'étais heureux que Dame Grâce ait réussi. J'entendis même murmurer à plusieurs reprises que le prince Vérité devrait bien se trouver une dame au cœur aussi noble. À le voir si souvent parti, fût-ce pour régler des affaires intérieures ou pour chasser les pirates, le peuple commençait à ressentir le besoin d'un homme à poigne sur le trône. Subtil, le vieux roi, restait nominalement notre souverain, mais, comme me le faisait observer Burick, le peuple se projette volontiers dans l'avenir.
« Et, ajoutait-il, les gens aiment savoir qu'un lit bien chaud attend le roi servant quand il rentre. Ça leur permet de laisser libre cours à leur imagination. Bien peu connaissent de véritables idylles dans leur existence, alors ils rêvent tout ce qu'ils peuvent pour leur roi ou leur prince. »
Cependant, Vérité lui-même, je le savais, n'avait guère le temps de se préoccuper de lit bien chaud, ni de lit tout court d'ailleurs. Forges avait été à la fois un exemple et une menace. Trois autres cas furent signalés, en rapide succession. Apparemment, Clos, petit village du nord dans les îles proches, avait été « forgisé », comme on avait baptisé ses attaques, quelques semaines plus tôt. La nouvelle fut longue à venir des côtes glaciales, mais quand elle arriva, elle était sinistre. Des habitants de Clos avaient eux aussi été pris en otage. Le conseil de ville avait été, comme subtil, pris au dépourvu par l'ultimatum des pirates, le sommant de payer rançon sous peine de se voir renvoyer les otages. Le conseil n'avait pas payé, et comme dans le cas de Forges, les prisonniers étaient revenus, pour la plupart sains de corps, mais dépouillés de toute émotion humaine. On murmurait que la réaction des villageois indemnes avait été plus violente que celle de Forges. La rudesse des îles proches façonne les habitants à son image, et tirer le fer contre leurs propres frères déshumanisés leur était apparu comme une mesure de miséricorde. Deux autres villages furent attaqués après Forges. À Perte de Roc, les habitants avaient payé la somme demandée. Le lendemain, la marée avait laissé des tronçons de cadavres sur la grève, et le village s'était réuni pour les inhumer. La nouvelle parvint à Castelserre sans commentaire, avec seulement le grief implicite que si le roi s'était montré plus vigilant, Perte de Roc aurait au moins pu être averti de l'assaut. Bourbe Robin releva bravement le défi. Les villageois refusèrent de payer. Mais les rumeurs effrayantes de forges circulant dans le pays, ils se préparèrent. Et ils accueillirent les otages qu'on leur renvoya avec des cordes et des fers, les ramenèrent au village après en avoir assommé certains, puis les entravèrent et les rendirent à leurs familles respectives. D'un commun accord, il avait été décidé de tenter de leur faire retrouver leur personnalité de naguère. Les récits de Bourbe Robin étaient parmi ceux qu'on racontait le plus souvent. Celui de cette mère qui avait essayé de mordre un nourrisson qu'on lui avait donné à allaiter, déclarant qu'elle n'avait rien à faire de cette créature géniarde et bavante. Celui de cet enfant qui pleurait et criait qu'on le détache, pour se jeter, une lardoire au poing, sur son propre père qui, le cœur brisé, venait de le libérer. Certains se débattaient, lançaient malédictions et crachats sur leur famille. D'autres s'installaient dans une existence de captivité et de croupissement et avalaient la nourriture et la bière qu'on déposait devant eux sans un mot de remerciement ni d'affection. Libres d'entraves, ceux-ci n'attaquaient pas leur famille. Mais ils ne travaillaient pas non plus et ne participaient à rien, pas même au passe-temps des soirées. Ils volaient sans remords, même à leurs enfants, gaspillaient l'argent et dévoraient comme quatre. Ils ne causaient nulle joie, n'avaient jamais un mot gentil. Mais on disait de Bourbe Robin que les gens de là-bas entendaient persévérer jusqu'à ce que le mal des pirates soit passé. Cette nouvelle rendit un peu d'espoir aux nobles de Castelserre. Ils parlaient avec admiration des villageois et jurèrent de les imiter s'il arrivait que certains de leurs parents fussent forgisés. Bourbe Robin et ses courageux habitants devinrent le centre d'attention des six duchés. Le roi subtil leva de nouveaux impôts en leur nom. Certains leur envoyèrent des chargements de grains pour subvenir aux besoins de ceux qui, trop occupés à soigner leurs frères enchaînés, n'avaient pas le temps de reconstituer leurs troupeaux décimés ou de ressemer leurs champs incendiés. D'autres firent bâtir de nouveaux navires et engager des hommes supplémentaires pour patrouiller le long des côtes. Tout d'abord, le peuple s'enorgueillit de sa propre capacité de réaction. Ceux qui vivaient sur les falaises surplombant la mer s'organisèrent spontanément en équipes de surveillance. Des systèmes de coursiers, de pigeons voyageurs et de feux d'alerte furent mis en place. Quelques villages firent parvenir des moutons et des vivres à Bourbe Robin afin d'aider ceux qui en avaient le plus besoin. Mais les semaines s'écoulant sans aucun signe d'amélioration chez les anciens otages, l'espoir et les sacrifices consentis commencèrent à paraître plus pitoyables que généreux. Les plus ardents à soutenir ces tentatives en vinrent à déclarer que s'ils étaient pris en otage, ils préféreraient se faire hacher menu et jeter à la mer plutôt qu'imposer à leur famille l'épreuve d'un tel crève-cœur. Le pire à cette époque, je crois, était que le trône lui-même ne savait que faire. Si un édit royal avait été publié, disant qu'il fallait ou ne fallait pas payer la rançon exigée, peu importe, la situation en eût été améliorée. Dans l'un et l'autre cas, il se serait trouvé des gens pour ne pas être d'accord, mais au moins le roi aurait pris position. Et le peuple aurait eu le sentiment que la menace ne restait pas sans réponse. Or, bien au contraire, les patrouilles et la surveillance accrue donnaient seulement l'impression que Castelserre tremblait devant le nouveau danger, démuni de stratégie pour y faire face. En l'absence d'un édit royal, les villages côtiers prirent eux-mêmes les choses en main. Les conseils se réunirent pour décider de la conduite à tenir en cas de forgisation. Certains votèrent dans un sens, d'autres dans l'autre. « Mais dans les deux cas, me dit Humbre d'un ton las, leur choix affaiblit leur loyauté envers le royaume. Qu'on leur paye rançon ou non, les pirates peuvent se moquer de nous, car en prenant leur décision, nos villageois pensent, non pas « si nous nous faisons forgiser », mais « quand nous nous ferons forgiser ». Et ainsi, ils sont déjà meurtris dans leur esprit, sinon dans leur chair. Ils regardent leurs proches, la mère son enfant, l'homme, ses parents, et il les voit déjà condamnés à mort ou à la forgisation. Et le royaume défaille, car chaque bourg devant décider seul, il se sépare du tout. Nous allons éclater en milliers de petites villes indépendantes, chacune ne s'inquiétant que de ce qu'elle fera pour elle-même en cas d'attaque. Si Subtil et Vérité ne réagissent pas très vite, le royaume va devenir une entité qui n'existera plus que par son nom et seulement dans l'esprit de ses anciens gouvernants.
« Mais que peuvent-ils faire ?
demandai-je, angoissé. « Quel que soit l'édit qu'il publie, ce sera un mauvais choix. » Je pris les pincettes et poussai un peu plus loin dans les flammes le creuset que je surveillais.
« Parfois, grommela Humbre, mieux vaut relever un défi et se tromper que garder le silence. Écoute, mon garçon, si toi, un simple adolescent, tu te rends compte que toutes les options sont mauvaises, à plus forte raison le peuple tout entier. Mais au moins un tel édit nous permettrait de réagir en commun. Les villages n'en seraient plus réduits à lécher leurs propres blessures dans leur coin. Et en plus d'un édit, il faudrait que Subtil et Vérité prennent d'autres mesures. »
Il se pencha pour examiner le liquide bouillonnant.
« Augmente la chaleur, » fit-il.
Je m'emparai d'un petit soufflet et l'actionnai avec douceur. « Quel genre de mesure ?»«
Organiser des expéditions punitives chez les Outriliens. Fournir des vaisseaux et des vivres volontaires pour ces représailles. Interdire de faire paître les troupeaux de façon aussi tentante sur les précotiers. Donner davantage d'armes au village, si l'on ne peut installer dans chacun une garnison pour le défendre. Par la charrue des dats, qu'on les pourvoie en pastilles de carice et d'ombre nuit à porter sur soi dans une bourse accrochée au poignet, de façon que, s'ils se font capturer, ils puissent se suicider. N'importe quoi, mon garçon. Tout ce que le roi pourrait faire dans la situation présente vaudrait mieux que cette satanée indécision. »
J'étais bouche bée. Jamais je ne l'avais entendu parler si violemment, ni critiquer Subtil si ouvertement. J'en étais choqué. Je retins ma respiration, espérant qu'il poursuivrait tout en le redoutant. Il ne parut pas remarquer ma réaction.
« Pousse le creuset encore un peu plus loin, mais sois prudent. S'il explose, le roi Subtil risque de se retrouver avec deux grêlés au lieu d'un. »
Il me jeta un coup d'œil.
« Eh oui, c'est comme ça que j'ai eu ces marques. Mais ça aurait aussi bien pu être la variole, pour ce que Subtil m'écoute ces derniers temps.
« Tu n'as que mauvais présage, avertissement et mise en garde à la bouche, » me dit-il. « Mais si tu veux qu'on forme le petit à l'art, je crois que c'est parce que tu ne l'as pas été toi-même. C'est une mauvaise ambition, Humbre. Débarrasse-t'en. »
C'est ainsi que le spectre de la reine parle par les lèvres du roi.
Sa rancœur me laissa pétrifier.
« Chevalerie, voilà celui qu'il nous faudrait, » reprit-il au bout d'un moment. Subtil hésite, et quant à Vérité, c'est un bon soldat, mais il prête trop l'oreille à son père. Il a été élevé pour être le second, pas le premier. Il ne prend pas l'initiative. Nous avons besoin d'un chevalerie. Lui, il se rendrait dans toutes ces villes pour parler à ceux dont les proches ont été forgisés. Il parlerait même aux forgisés, Crénon.
« Croyez-vous que ça changerait quelque chose ?» demandai-je doucement. J'osais à peine bouger. Je sentais qu'Humbre s'adressait davantage à lui-même qu'à moi.
« Ça ne résoudrait pas le problème, non. Mais le peuple aurait le sentiment que ceux qui le gouvernent partagent son fardeau. Quelquefois, il n'en faut pas plus, mon garçon. Mais Vérité ne fait que promener ses petits soldats de ci de là en essayant d'inventer des stratégies. Quant à Subtil, il le regarde faire, et il ne pense pas à son peuple, mais seulement à s'assurer que Royal ne risque rien et qu'il est prêt à prendre le pouvoir au cas où Vérité viendrait à se faire tuer.
« Royal ? » bafouillai-je sidéré. « Royal, avec ses beaux habits et ses airs de jeune coq ?» Certes, il ne quittait pas Subtil d'une semelle, mais jamais je n'avais vu en lui un vrai prince. Entendre son nom surgir dans une telle discussion me donna un choc.
C'est devenu le favori de son père, grommela Humbre. Subtil n'a fait que le gâter depuis la mort de la reine. Il cherche à s'acheter le cœur du prince à coups de cadeaux, maintenant que sa mère n'est plus là pour assurer son allégeance. Et Royal en profite copieusement. Il ne dit à son père que ce que celui-ci a envie d'entendre. Et Subtil lui laisse beaucoup trop la bride sur le cou. Il lui permet de voyager où il le désire, de gaspiller l'argent en visites inutiles à Labourg et à Bauge, où la famille de sa mère lui monte le bourrichon sur sa propre importance. Il faudrait interdire à ce gosse de quitter Castelserre et l'obliger à répondre de la façon dont il occupe son temps et dont il dépense l'argent du royaume. Avec les sommes qu'il a jetées par les fenêtres à courir la prétentaine, on aurait armé un navire de guerre.
puis soudain agacé.
« C'est trop chaud. Tu vas le perdre. Sors-le vite du feu !»
Trop tard. Le creuset se fendit avec un bruit de débâcle, et son contenu emplit la chambre d'une fumée âcre qui mit un point final aux leçons et aux discussions pour cette nuit-là. Le temps s'écoula sans qu'Imbre me rappelât. Mes autres cours se poursuivaient, mais les semaines passaient. Imbre me manquait, et son invitation ne venait pas. Je savais qu'il n'était pas en colère contre moi, mais seulement préoccupé. Un jour, où je n'étais pas débordé, je tendis mon esprit vers lui. Mais je ne perçus que dissimulation et sentiment de désaccord. Et une taloche à l'arrière du crâne quand Burick me surprit.
« Cesse !»
siffla-t-il, sans s'émouvoir de mon expression étudiée d'innocence outragée. Il promena le regard dans le box dont je nettoyais le fumier comme s'il s'attendait à y trouver un chien ou un chat.
« Mais il n'y a rien ici !»
s'exclama-t-il. « De la paille et du crottin, c'est tout ?» acquiesçai-je en me frottant l'occiput.
« Mais qu'est-ce que tu faisais ?»«
Je rêvassais, » grommelai-je. « Rien d'autre ?»«
N'essaye pas de me rouler, Fitz, » gronda-t-il, « et ne joue pas à ça dans mes écuries. Je t'interdis de pervertir mes bêtes et de dégrader le sang de chevalerie. N'oublie pas ce que je te dis !»
Je serrai les dents, baissai les yeux et me remis au travail. Au bout d'un moment, je l'entendis soupirer, puis s'éloigner. Bouillonnant de colère, je continuai à rateler le sol et résolu de ne plus jamais laisser Burick me prendre au dépourvu. Le reste de l'été se passa dans un tel tourbillon d'événements que j'ai du mal à m'en rappeler l'ordre. Du jour au lendemain, l'atmosphère parut se modifier. En ville, on ne parlait que de fortifications et de se tenir sur le pied de guerre. Seules deux nouvelles villes furent forgisées cet été-là. Mais on les eut crues une centaine tant les récits les concernant s'enflèrent à force de répétition. « C'est à croire que les gens n'ont plus d'autres sujets de conversation, » se plaignit un jour Molly. Nous nous promenions sur longue plage, au coucher du soleil d'été. Le vent du large apportait une fraîcheur bienvenue après la touffeur de la journée. Burick avait été appelé à Bouc de Fond pour résoudre le mystère du bétail qui présentait d'énormes ulcères cutanés. Du coup, plus de leçons du matin pour moi. Mais un considérable surcroît de travail auprès des chevaux et des chiens, d'autant plus que Cobb avait accompagné Royal à Turlac pour une partie de chasse, afin de s'occuper de ses montures et de ses matins. L'avantage, c'est que mes soirées étant moins étroitement surveillées, je disposais de plus de temps pour aller en ville. Mes promenades vespérales en compagnie de Molly étaient presque devenues un rite. La santé de son père chancelait, et c'est à peine s'il avait besoin de boire désormais pour sombrer dès le début de la soirée dans un profond sommeil. Molly nous préparait du fromage et des saucisses, ou bien un bout de pain et du poisson fumé, mettait le paquet dans un panier avec une bouteille de vin bon marché, et nous descendions sur la grève jusqu'au brisant. Là, nous nous installions sur les rochers encore chauds. Molly me racontait sa journée, les derniers potins, et moi j'écoutais. Parfois, nos coudes se heurtaient lorsque nous marchions. Sarah, la fille du boucher, m'a dit qu'elle n'avait qu'une hâte, que l'hiver arrive. Les vents et la glace obligeront les pirates à rester chez eux pendant quelque temps, à ce qu'elle prétend. Et nous, pourrons nous tranquilliser un peu. Mais Kelty a répondu qu'on aura beau ne plus craindre de nouvelles forgisations, n'empêche qu'on a du souci à se faire avec les forgisés qui se promènent dans le pays. On raconte que certains des anciens otages ont quitté Forge maintenant qu'il n'y a plus rien à y piller et qu'ils attaquent les voyageurs sur les routes.
Ça m'étonnerait. Ce sont plus probablement de vrais voleurs qui agissent, en se faisant passer pour des forgisés, afin de détourner les représailles. Les forgisés n'ont plus assez le sens de la solidarité pour s'organiser en bande. Je parlais d'un ton indolent. Je contemplais l'étendue de la baie, les yeux presque clos, pour me protéger du reflet du soleil sur l'eau. Je n'avais pas besoin de regarder Molly pour la sentir près de moi. J'avais une piquante impression de tension entre nous, que je ne comprenais pas très bien. Elle avait 16 ans, moi presque 14, et ces deux années se dressaient entre nous comme une muraille infranchissable. Pourtant, elle trouvait toujours du temps à m'accorder et paraissait apprécier ma compagnie. Elle semblait aussi consciente de ma présence que moi de la sienne. Mais si je tendais l'esprit vers elle, elle se reculait, s'arrêtait de marcher pour ôter un caillou de sa chaussure ou se mettait soudain à parler de la mauvaise santé de son père qui avait absolument besoin d'elle. D'un autre côté, Si j'écartais ma perception de cette tension, elle devenait hésitante. Son discours était moins assuré, et elle me cherchait du regard pour déchiffrer mon expression. Je ne comprenais pas, mais j'avais l'impression d'un fil tendu entre nous. Cependant, en la circonstance, je sentis un soupçon d'agacement dans sa voix. « Ah oui ? Et naturellement, tu en sais long sur les forts gisés, plus que ceux qu'ils ont attaqués et dépouillés. » Ces paroles acides me prirent au dépourvu, et je restai un moment sans pouvoir dire un mot. Molly ignorait tout d'Imbre, et à plus forte raison de notre voyage jusqu'à Forge. Pour elle, j'étais coursier au château et je travaillais pour le maître d'écurie lorsque je ne faisais pas les commissions du scribe. Impossible de lui révéler que je connaissais le problème de près, et surtout la façon dont je percevais les forgisés. J'ai entendu les gardes en parler le soir, près des écuries et des cuisines. Des soldats comme eux, ils ont vu toutes sortes de gens, et ce sont eux qui disent que les forgisés n'ont plus le sens de l'amitié, de la famille, ni de l'affection. Mais enfin, si l'un d'eux se mettait à dépouiller les voyageurs, peut-être que les autres l'imiteraient, et ce serait l'équivalent d'une bande de voleurs. Peut-être. Son ton parut s'adoucir. Tiens, si on grimpait là-haut pour manger ? Là-haut, c'était une corniche accrochée à la falaise, au-dessus des brisants. Je hochai la tête et nous passâmes les minutes suivantes à nous y transporter, nous et le panier. L'escalade fut plus ardue que nos sorties précédentes. Je me surpris à observer comment Molly se débrouillait avec ses jupes et à saisir toutes les occasions de lui attraper le bras pour l'aider à garder l'équilibre ou à prendre sa main lors d'un passage difficile tandis qu'elle tenait le panier de l'autre. Je compris tout à coup que sa proposition de monter à la corniche n'avait pas d'autre but. Enfin parvenus au surplomb, nous nous assîmes, le panier entre nous, les yeux perdus à l'horizon, et je savourais le plaisir de la sentir près de moi, et de savoir qu'elle partageait ce sentiment. La situation m'évoquait les jongleurs, à la fête du printemps, qui se renvoient mutuellement leur massue, sans interruption, toujours plus nombreuses et de plus en plus rapidement. Le silence s'éternisa au point d'en devenir gênant. Je la regardais, mais elle détourna les yeux. Voyant la bouteille, elle dit « Tiens, du vin de pissenlit. Je croyais qu'on ne pouvait le boire qu'après la mi-hiver. » « Celui-ci est de l'année dernière. Il a eu tout un hiver pour vieillir, » répondis-je, et je m'emparai de la bouteille pour la déboucher à l'aide de mon couteau. Elle observa un moment mes vains efforts, puis, me prenant la flasque des mains, tira un couteau fin de son étui et l'enfonça dans le bouchon qu'elle extirpa d'un coup de poignet expert. Je l'enviai. Elle surprit mon regard et haussa les épaules. Je débouche les bouteilles pour mon père depuis toujours. Avant, c'était parce qu'il était trop saoul pour y arriver. Maintenant, c'est parce qu'il n'a plus de force dans les mains, même à jeun. Chagrin et rancune se mêlaient dans sa voix. Ah ! Je cherchais désespérément un sujet de conversation plus plaisant. « Regarde, la fille de la pluie !» Du doigt, je désignais un navire à la coque élancée qui entrait au port à l'aviron. « Pour moi, c'est le plus beau bateau de tous. » Il revient de patrouille. Les marchands de tissus ont fait une collecte et presque toutes les boutiques de la ville ont participé. Moi aussi, même si je n'ai pu donner que des bougies pour les lanternes. C'est un équipage de soldats qui est à bord et qui escorte les navires entre ici et Haute Dune. Après, c'est l'embrun vert qui prend la relève pour la suite de la côte. Je ne savais pas tout ça. Et je m'étonnais de ne pas en avoir entendu parler au château. Mon cœur se serra. Même Bourg de Castelserre prenait des mesures sans attendre l'avis ni l'agrément du roi. Je fis part de mes pensées à Molly. Ma foi, il faut bien se prendre en main si le roi subtil se contente de froncer les sourcils sans rien faire d'autre. Ça ne lui coûte pas cher de nous exhorter à nous montrer courageux alors qu'il est bien à l'abri dans sa forteresse. Ce n'est pas son frère ni sa petite fille qui risquent de se faire forgiser. À ma grande honte, je ne trouvais rien à répondre pour la défense du roi. Et ma honte me poussa à déclarer. Enfin, tu es presque aussi en sécurité que le roi lui-même au pied du château. Molly m'adressa un regard qui ne sillait pas. J'avais un cousin qui faisait son apprentissage à Forge. Elle se tut, puis reprit d'une voix lente. Est-ce que tu me jugeras sans cœur si je te dis que nous avons tous été soulagés d'apprendre qu'il a seulement été tué? Pendant une semaine ou deux, nous n'avons pas su ce qu'il était devenu, et puis nous l'avons appris par quelqu'un qui l'avait vu mourir. Et mon père et moi en avons été bien soulagés. Au moins, nous pouvions le pleurer, en sachant que sa vie était simplement terminée et qu'il nous manquerait. Fini de se demander s'il était toujours vivant et s'il se conduisait comme une bête, à rendre les autres malheureux et à s'humilier lui-même.
Je restai un moment silencieux. Puis je dis enfin « Je suis navré ». C'était insuffisant, et je tendis la main pour serrer la sienne, immobile. L'espace d'une seconde, j'eus l'impression de ne plus percevoir sa présence, comme si le chagrin lui avait paralysé l'esprit, au même titre qu'un forgisé. Mais alors elle poussa un soupir, et je la sentis à nouveau près de moi. « Tu sais, » fis-je, hésitant, « peut-être que le roi lui-même ne sait pas non plus quoi faire. Peut-être que, comme nous, il cherche une solution et n'en trouve pas.
« Mais enfin, c'est le roi !» protesta Molly. « Et on l'a baptisé subtil pour qu'il soit subtil.
On prétend maintenant que s'il ne réagit pas, c'est pour garder serrés les cordons de sa bourse. Pourquoi taper dans son magot alors que les marchands, à bout de ressources, engagent des mercenaires avec leur propre argent ?
Mais assez !»
Et elle leva la main pour m'interdire de répondre. « Nous ne sommes pas ici, au calme et au frais, pour parler de politique et de soucis. »
Raconte-moi plutôt ce que tu fais en ce moment. Est-ce que la chienne tachetée a eu ses petits ?
Et nous causâmes donc d'autres choses. Des chiots de Bigarette, de la jument en chaleur qui s'était fait saillir par les talons qu'il ne fallait pas, et elle me parla des cônes verts qu'elle récoltait pour parfumer ses chandelles, de sa façon de trier les baignoires, du travail qu'elle aurait par-dessus la tête la semaine d'après à faire des conserves de baignoires pour l'hiver tout en s'occupant de la boutique et en fabriquant des bougies. Et nous bavardions. Mangions et buvions en regardant le soleil de fin d'été s'attarder au-dessus de l'horizon. Presque couché, mais pas tout à fait. Je sentais la tension entre nous comme un lien agréable, étonnant, comme si nous étions en état de suspension. J'y voyais une extension de mes étranges et nouvelles perceptions, et j'étais surpris que Molly parût y réagir, elle aussi. J'avais envie de lui en parler, de lui demander si elle éprouvait la présence d'autrui de la même façon que moi. Mais je craignais, de ce fait, de me dévoiler comme je m'étais révélé à Humbre, ou qu'elle en ressente du dégoût comme Burick. Aussi, masquant mes pensées derrière un sourire anodin, je continuai à bavarder de tout et de rien. Je la raccompagnai chez elle par les rues silencieuses, et lui souhaitai bonne nuit à la porte de la chandellerie. Elle hésita un instant, comme si elle venait de penser à quelque chose qu'elle voulait me dire, mais elle se contenta de me lancer un regard bizarre, et de murmurer « Bonne nuit, le nouveau ». Je regagnai la forteresse sous un firmament bleu sombre piqueté d'étoiles brillantes, dépassai les sentinelles absorbées dans leur éternel jeu de dés, et grimpai aux écuries. Je fis rapidement le tour des boxes, mais tout était calme et normal, malgré les chiots nouveau-nés. Je remarquai dans l'un des prés deux chevaux que je ne connaissais pas, et nouvellement installés dans l'écurie, le palefroi d'une dame. Sans doute une noble dame en visite à la cour, songeai-je. Je me demandais ce qui pouvait bien l'amener chez nous à la fin de l'été, tout en admirant la qualité de ses montures. Enfin, je me dirigeai vers la forteresse. Machinalement, je pris par les cuisines. Mijotte savait l'appétit qui tenaillait les garçons d'écurie et les hommes d'armes, et n'ignorait pas que les repas réguliers ne suffisaient pas toujours à les rassasier. Ces derniers temps, en particulier, j'étais pris de fringales à toute heure, et maîtresse pressée avait récemment déclaré que si je ne cessais pas de grandir aussi vite, je serais bientôt obligé de me vêtir de tissu d'écorce comme un homme des bois, car elle ne voyait pas comment faire pour que mes vêtements maillent d'une semaine sur l'autre. En entrant dans les cuisines, j'imaginais déjà l'énorme saladier en terre cuite, recouvert d'un linge dont Mijotte veillait toujours à ce qu'il soit plein de biscuits moelleux, et aussi certaines meules de fromage très piquants, en me disant que les deux iraient très bien avec une chope de bière. Une femme était assise à une table. Elle mangeait une pomme avec du fromage, mais à ma vue, elle se leva d'un bond et porta la main à son cœur comme si elle me prenait pour le grêlé en personne. Je m'immobilisai. « Je ne voulais pas vous faire peur, madame. J'avais faim et j'ai eu envie de me trouver de quoi manger. Cela vous dérange-t-il si je reste ?» La dame se rassit lentement. À part moi, je m'étonnais. Que faisait une personne de son rang toute seule la nuit dans la cuisine ? Car ni sa robe crème toute simple, ni l'expression lasse de son visage ne parvenait à dissimuler sa haute extraction. Sans nul doute, c'était la propriétaire du palefroid aperçue aux écuries, et non une quelconque chambrière. Si les tiraillements de la faim l'avaient sorti du sommeil, pourquoi n'avoir pas réveillé un serviteur pour qu'il aille lui quérir à manger? De sa poitrine, sa main se porta jusqu'à ses lèvres, comme pour apaiser sa respiration irrégulière. Lorsqu'elle parla, ce fut d'une voix bien modulée, presque musicale. « Je ne voudrais pas vous empêcher de vous servir. J'ai seulement été un peu surprise. Vous êtes entrée si brusquement. » « Je vous remercie, madame. » Je fis le tour de la cuisine, du tonneau de bière au pain, en passant par le fromage, mais où que j'aille, ses yeux ne me quittaient pas. Son encas restait intact sur la table, là où il était tombé. Après m'être rempli une chope, je me retournais et croisais ses yeux écarquillés. Aussitôt, elle baissa le regard. Ses lèvres remuèrent, mais je n'entendis rien. « Puis-je vous être utile ? » demandai-je poliment. « Vous aider à trouver quelque chose ? Désirez-vous un peu de bière ?»« Oui, s'il vous plaît. » Elle parlait à mi-voix. Je lui apportai la chope que je venais de remplir et la déposai devant elle. Elle se recula comme si j'étais atteint d'un mal contagieux. Peut-être l'odeur des écuries collait-elle à mes vêtements ? Non, Molly me l'aurait sûrement fait remarquer. Elle avait son franc parler pour ce genre de détails. Je me tirai une nouvelle chope, puis, après avoir promené mon regard sur la cuisine, estimai préférable d'emporter mon repas dans ma chambre. Tout dans l'attitude de la dame exprimait sa gêne à me sentir présent. Mais tandis que je m'efforçais de tenir à la fois la chope, les biscuits et le fromage, elle indiqua le banc en face d'elle. « Installez-vous, » dit-elle, comme si elle avait lu dans mes pensées. « Je n'ai pas à vous empêcher de manger ici. » Ni ordre, ni invitation. Le ton se situait entre les deux. Je m'approchai de la place désignée et renversai un peu de bière en déposant mes affaires. Je m'assis, ses yeux toujours sur moi. Elle n'avait pas touché à son propre repas. Je courbai le cou pour éviter ce regard et mangeai en vitesse, furtif comme un rat qui pressent le chat derrière la porte. Elle me dévisageait ouvertement, sans aucune grossièreté. Mais son examen finit par rendre mes gestes maladroits, et je m'aperçus au bout d'un moment, avec un profond embarras, que je venais inconsidérément de m'essuyer la bouche avec ma manche. Je ne trouvais rien à dire pour meubler le silence, ce silence qui me lançait pourtant comme un coup de poignard. Le biscuit, soudain sec comme de la cendre, me fit tousser, et je m'étouffais sur la gorgée de bière que j'avalais pour le faire descendre. Ses sourcils se levèrent, sa bouche prit un pli plus ferme. Les yeux baissés sur mon assiette, je sentais néanmoins son regard posé sur moi. J'expédiai mon repas avec une seule idée en tête, échappé à ses yeux noisettes et à ses lèvres immobiles d'où ne sortait aucun son. Je me fourrai les derniers morceaux de biscuits et de fromage dans la bouche, puis me dressai avec tant de hâte que je me cognai dans la table et faillis renverser mon banc. Alors que je me dirigeais vers la porte, je me rappelais les instructions de Burick sur la façon de prendre congé d'une dame. J'avalai ma bouchée à demi-mâchée. « Bonne nuit, madame, » bafouillai-je. L'expression me parut mal appropriée, mais aucune autre ne m'était venue à l'esprit. Et je me dirigeai vers la porte, la démarche oblique. « Attendez, » dit-elle. Je m'arrêtai et elle reprit. « Logez-vous au château ou aux écuries ?»« Aux deux. Quelquefois... l'un et l'autre, je veux dire. Enfin, bonne nuit, madame. » Sur quoi je fis demi-tour, et c'est tout juste si je ne m'enfuis pas en courant. J'étais déjà dans les escaliers lorsque l'étrangeté de sa question me frappa. Et j'allais me déshabiller quand je m'aperçus que j'avais toujours ma chope vide à la main. Je me couchais avec le sentiment d'être un idiot, sans savoir pourquoi.